Radio Kapi. Le journal Blaise Ndalikabala.
Deuxième jour, ce mardi, des épreuves hors session de l'examen d'État 2026. L'inspecteur général de l'éducation annonce des innovations suivantes. Les candidats des options techniques passent les épreuves traditionnelles qui consistent à faire la pratique de leurs différentes leçons prises en classe. Et puis, les candidats des sections techniques devront désormais défendre leur rapport de stage devant les jurys. Activité socio-économique paralysée du côté de Lubero dans le Nord Kivu et pour cause, le meurtre d'un motard et de son client attribué à un présumé combattant Muzalendo. Du coup, la population en colère a incendié un campement de présumés combattants Muzalendo. Les États-Unis viennent d'imposer des sanctions à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, l'accusant de soutenir l'FC-M23 qui occupe une partie dans l'est du pays. Ces sanctions étaient au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. Vous les suivrez à la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal du matin. Deuxième jour des épreuves hors session de l'examen d'État 2026 ce mardi, avec ces précisions de l'inspecteur général de l'éducation nationale. Les candidats des options techniques, notamment commerciales, pédagogiques, sociales, électricité, menuiserie, hôtellerie, restauration et autres, passent les épreuves traditionnelles qui consistent à faire la pratique de leurs différentes leçons prises en classe, explique Hubert Kimbonza. Ces hauts fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale ajoutent que la particularité de cette édition réside dans l'introduction de l'examen oral en anglais pour les candidats de toutes les sections. Il note enfin que les candidats des sections techniques devront désormais défendre leur rapport de stage devant des jurys. Hubert Kimbonza au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Dissertation et l'équipe à solo.
La dissertation s'est bien déroulée aujourd'hui. Le deuxième jour, les épreuves traditionnelles ne concerneront que les élèves qui font des sections techniques telles que commerciales, électricité, électronique et les autres sections. Le troisième jour, nous aurons les épreuves de langue, notamment l'oral de français et d'anglais, et la défense de rapports de stage pour ceux de sections pédagogiques et sociales. Et enfin, ces épreuves de hors session prendront fin dans 2 semaines sur toute l'étendue du territoire national de la RDC et nos superviseurs feront un rapport de toutes ces épreuves afin d'améliorer les prochaines épreuves si possible.
Direction Kwilu, toujours dans la partie ouest de la RDC. Le lancement de la 59e édition des épreuves de dissertation a bel et bien eu lieu hier lundi. La cérémonie officielle s'est tenue au complexe scolaire Ewa, situé dans la périphérie de la commune de Basoko, en présence des autorités politico-administratives et du secteur de l'éducation. Notez que dans la province éducationnelle du Kwilu 1, plus de 14 000 finalistes prennent part à cette première étape de l'examen d'État. Ils sont près de 6 800 filles, soit 47% répartis dans 73 centres. Représentant le gouverneur des provinces, le ministre provincial des Transports, Kipa Lamoto, a exhorté les candidats à faire preuve de concentration, de discipline et de sérieux afin de réussir cette première étape de l'examen d'État. Pour sa part, l'inspecteur principal provincial de l'éducation Kwilu 1, Paul Paku Ditubanza, a présenté les différentes étapes du déroulement de cette épreuve. On l'écoute au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio communautaire Bandundu.
Ainsi, pendant 2 semaines, les candidats finalistes vont présenter un l'été 31 pour la dissertation pour les cycles longs et l'été 66 pour la rédaction pour les cycles courts au premier jour. Deux, des épreuves traditionnelles ou tradies dans notre jargon du métier vont se dérouler au deuxième jour pour les options techniques. Trois, l'oral de français pour l'été 31 et l'oral d'anglais pour l'été 30C, la défense des rapports de stage pour l'été 30B, et la situation d'intégration pratique, la CIP ou le T33, à part troisième jour.
En rapport toujours avec ces épreuves, sachez que le commandement des opérations Ngemba indique que les élèves finalistes résidant dans les agglomérations autrefois touchées par l'insécurité liée au phénomène Mobondo ont passé leur première épreuve de dissertation dans les calmes et en toute sécurité sans qu'aucun incident ne soit enregistrés. Dans un communiqué publié hier lundi, il affirme que cela a été possible grâce au dispositif sécuritaire renforcé mis en place par les forces engagées sur le terrain. Tous les candidats, y compris les élèves déplacés, ont pu accéder au centre d'examen et composer dans des conditions sereines. Le commandement des opérations Gemba réaffirme enfin son engagement à garantir la sécurité des populations civiles et à accompagner le bon déroulement de toutes les épreuves sur l'ensemble des zones concernées. Les choses ne se passent pas de la même manière partout, hélas. En Ituri, par exemple, la plupart des élèves finalistes et déplacés du territoire de Djougou qui passent des preuves préliminaires de l'examen d'état à Bounia affirment avoir subi des traumatismes liés à la guerre dans leur milieu d'origine. Selon eux, cette situation réduit leurs chances de réussite. À cela s'ajoute un autre défi. Le programme scolaire n'a pas été achevé en raison de l'insécurité qui a paralysé les activités scolaires. De leur côté, les autorités éducatives assurent avoir mis en place un accompagnement psychologique pour améliorer les conditions de ces élèves. Reportage de Christelle Aïchi.
Les élèves finalistes venus du territoire de Djougou sont accueillis dans différents centres de passation des épreuves préliminaires à Bounia. Certains ont fui il y a plusieurs mois, d'autres sont arrivés à la veille des épreuves après avoir été exposés aux violences armées dans leur territoire. Une situation qui a laissé des séquelles psychologiques chez plusieurs d'entre eux. Ils déplorent également la suspension prolongée des cours dans leur localité qui ne leur a pas permis de couvrir l'ensemble du programme scolaire. Toutes ces difficultés, disent-ils, réduisent leurs chances de réussite.
On n'étudiait pas bien là-bas à cause de la sécurité. On n'a pas terminé le programme. Nous nous laissons à la main de Dieu.
Le chef du centre Bounia 5 affirme que ses élèves ont bénéficié d'un accompagnement psychologique. Makati Manganga, inspecteur chef de poule.
Ce sont les enfants que je caresse plus que les autres. Ce sont les enfants qui sont en détresse. On ne doit pas être trop dur envers lui. On les rapproche pour les mettre à l'aise, qu'ils arrivent à travailler aussi comme les autres, qu'ils ne soient pas stressés.
Signalons que de nombreux élèves finalistes des territoires de Djougou et de Mambasa n'ont pas participé à ces épreuves et dénoncent leur report auprès du gouvernement. Bounia, Christelle Aïchi, Radio Okapi.
Chapitre sécurité, activité plutôt en panne du côté de Lubero dans le Nord Kivu. Et pour cause, le meurtre d'un montard et de son client attribué à un présumé combattant Muzalendo. Du coup, la population en colère a incendié un campement de présumés combattants Wazalendo. Conséquence, plusieurs activités tournent au ralenti depuis ce week-end précisément dans la localité de Kimbulu et la commune rurale de Lubero Centre située à environ 75 km de la ville de Butembo. Les explications avec Martial Papimukeba.
Tout est parti de la disparition d'un motard et de son client parti de Butembo à destination de Lubero Centre. Ils auraient été interceptés jeudi après-midi entre les localités de Musienene et Kimbulu par un présumé combattant Muzalendo qui les aurait forcés à se rendre dans son camp. Selon des sources locales, les corps sans vie ont été découverts dimanche inhumés non loin de ces camps présumés. Cette découverte a suscité une vive colère au sein de la population qui a aussitôt incendié les camps des combattants Wazalendo. Conséquence, plusieurs activités sont fortement paralysées à Kimbulu et Lubero Centre. D'après des sources sécuritaires, le présumé auteur du double meurtre a été arrêté et transféré à l'auditorat militaire de Butembo. Nous n'avons pas encore obtenu la réaction de l'administrateur du territoire de Lubero. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Nous apprenons aussi que des actes de violence contre la population civile ont été commis dans deux chefferies du territoire d'Ouvira au cours des trois derniers mois de l'année en cours. Nous sommes là, dans le sud Kivu. Les entités concernées sont les chefferies de Bafouliru et de la plaine de la Ruzizi. Le comité exécutif pour la paix et la cohabitation communautaire dans les territoires d'Ouvira, Fizi et Mwenga Itombwe indexe quelques groupes armés. Ahadi Biamasu Nathan décrit la situation de décembre 2025 à avril 2026 au micro de Jean Kassami.
Au nom du CPCC, nous déplorons nos profondeurs inquiétudes face aux multiplications des actes de violence ciblés, des infrastructures médicales, éducatives et d'habitation des civils dans les villages de Kasambura, Biriba, Mikamba et Kabunambo, entre la chefferie de Bafuliru et la chefferie pleine de la Ruzizi. Ces actes constituent non seulement des atteintes graves aux droits fondamentaux, dont les droits humains à la vie, mais aussi des violations du droit international. Entre le 9 décembre 2025 jusqu'à maintenant, plusieurs cas de violence par les acteurs armés ont été signalés, marquant une nouvelle escalade des violences contre les civils et surtout aux femmes. En date du 9 mars 2026, il y a eu les explosions de bombes à Kassambura, dans le groupement de Runingu, qui ont fait au moins une perte de 9 personnes signalées et 15 de blessés. Il y a eu même une hausse inquiétante des camps d'enlèvement des civils.
Des sources médicales dans la région affirment que quelques institutions sanitaires ont fermé leurs portes suite aux actes de sabotage perpétrés par des groupes armés. Ouverture des travaux de la table ronde de concertation sur les défis de l'aménagement du territoire hier lundi à Kinshasa. Pendant 2 jours, décideurs publics et experts réfléchissent sur l'avenir structurel de la République démocratique du Congo. Ce rendez-vous stratégique qui se clôture ce mardi 5 mai vise à poser les jalons d'une gestion plus rationnelle et moderne de l'espace national. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
De nombreux analystes considèrent cette table ronde comme un rendez-vous stratégique pour le développement de la RDC. Dans un pays aux dimensions continentales, ces assises visent à harmoniser l'exploitation des ressources naturelles, à maîtriser l'urbanisation galopante et à renforcer la protection de l'environnement. L'importance de l'événement est soulignée par l'implication des plus hautes autorités du pays, le président de la République Félix Tshisekedi, qui place l'aménagement du territoire au cœur de sa vision de développement. La première ministre, Judith Suminois, est chargée de coordonner la mise en œuvre des réformes issues de ses travaux, tandis que le ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa, en assure la conduite technique. Réunis à la salle Panorama du Congo Fleuve Hotel, les participants à ce forum planchent sur plusieurs axes prioritaires. Il s'agit notamment de finaliser les outils juridiques destinés à réguler l'occupation des sols, de réduire les disparités entre les provinces afin de stimuler l'économie locale et d'intégrer les enjeux climatiques dans la planification urbaine et rurale.
Autre chapitre, la situation des marchés pirates demeure inquiétante dans la capitale. Cas au rond-point Ngaba, croisement des communes de Ngaba, Lemba et Makala, dans la ville-province de Kinshasa. Ces lieux hautement fréquentés s'est transformé en marché, créant embouteillages, vols et plusieurs autres dégâts. La vie y est invivable et la circulation problématique. Reportage de Jean-Marie Kanaimba.
Nous sommes au rond-point Ngaba. Le problème est que nous n'avons pas de marché pour vendre. Même si on nous chasse, nous reviendrons toujours parce que nous n'avons pas où aller. Que les autorités trouvent une solution au problème du marché. Nous ne voulons pas vendre ici parce que nous sommes exposés aux accidents de circulation.
Nous n'avons pas besoin de vendre ici. On les fait par souffrance. Ce que nous demandons aux responsables est de chercher le moyen d'acheter pour nous les terrains pour notre marché.
Changeons de cap avec le sport à présent et place à notre série de reportages consacrés aux élections à la FECOFA. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux électeurs. Qui sont les électeurs du comité exécutif de la FECOFA? Vanessa Kongolo.
Selon l'article 26 du nouveau statut de la FECOFA consacré aux délégués et aux votes, l'Assemblée générale est composée de 68 membres, soit 68 votants. Le club s'étale la part du Lyon avec 32 voix. Ils sont suivis des ligues provinciales avec 22 votants, les ligues nationales avec 6 voix et les associations reconnues par la FECOFA avec 8 votants. Les répartitions se présentent comme suit. Les ligues nationales disposent de 6 délégués en raison des départs ligue, à savoir la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football féminin et la Ligue nationale de football de jeunes. Ligue provinciale compte 22 délégués en raison de 2 par ligue. La RDC a 11 ligues provinciales. Le club ont droit à 32 délégués répartis comme suit. 12 clubs évoluant en Ligue 1, 4 évoluant en Ligue 2 et 3 équipes de la Ligue nationale de football féminin et 2 de la Ligue nationale de football de jeunes. Et les 11 clubs champions des ligues provinciale. Le regroupement d'intérêts reconnu par la FECOFA totalise 8 délégués répartis de la manière suivante. Un délégué de l'Association nationale des joueurs, 2 délégués de l'Association nationale des entraîneurs et éducateurs de football, 2 délégués des associations nationales des arbitres, 2 délégués de l'Association nationale des dirigeants des clubs de football masculin et féminin, 1 délégué de l'Association nationale de médecins et du personnel de la médecine du football. Il convient de rappeler que chaque délégué dispose d'une voix lors de l'Assemblée générale.
Actualité internationale.
Les actes de piraterie connaissent une recrudescence au large de la Somalie, alors que 2 bateaux ont déjà été capturés et un autre attaqué au mois d'avril au large des côtes somaliennes. Le Reka, un navire battant pavillon togolais, a à son tour été détourné par des hommes armés se déplaçant sur les rapides frégates samedi 2 mai. Le phénomène serait en grande partie lié au blocage du détroit d'Ormuz, épicentre du conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis.
L'invité.
Les États-Unis viennent d'imposer des sanctions à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Il l'accuse de chercher à déstabiliser le gouvernement de la République démocratique du Congo en soutenant l'AFC M23 qui occupe une partie dans l'est du pays. Ces sanctions étaient au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Ferdinand Cambéré, vous êtes avocat, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. D'abord, que vous inspire ces sanctions du département d'État américain contre l'ancien président Joseph Kabila?
Il y a eu des feuilletons, vous le savez vous tous. Nairobi a déjà allé assez, il y a eu Luanda, il y a eu Doha. Aujourd'hui, ils sont à montrer en train de négocier. Et à dernière minute, que ce soit l'affaire de l'ancien président de la République qui, lui, a usé de sa parole rien que pour suggérer qu'il y ait une solution qui soit trouvée, que les armées étrangères se retirent de notre pays et que la résolution, il y a d'ailleurs 2 résolutions, la résolution du Conseil des Nations Unies 2773 soit appliquée, ainsi que la résolution 2808 qui a renforcé le mandat de la MONUSCO. C'est pendant ce temps que maintenant ce département du Trésor doit choisir pour, de manière sélective, n'aller prendre que celui-là, qui n'est même pas partie prenante à ces conflits-là, qui n'est qu'un ancien président de la République qui s'est exprimé, insécurisé dans toute la partie occupée par les gouvernements. Il a choisi d'aller habiter dans l'une de ses résidences au Nord Kivu, et que ça soit empêché, c'est vraiment inexcusable pour nous.
Oui, justement, c'est ce que vous voudriez savoir. C'est quoi les rôles que joue Kabila à Goma? Est-ce qu'il n'influence pas d'une manière ou d'une autre la situation des guerres?
Kabila est à Goma et en tant qu'acteur politique, il a consulté sa population. C'est tout ce qu'il a fait. Mais aucune réunion, personne n'a si prouvé qu'un jour Kabila a organisé une réunion de commandement avec le M23. Et même ce qu'ils appellent appui par octroi de matériel. Quel matériel? Par quel canal? C'est passé par quel avion ou par quel bateau?
Merci Michel Lingepo Molanga, vous êtes avocat, vous êtes sénateur élu de la Mongala, vous êtes également cadre du MLC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Comment vous comprenez les sanctions américaines à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila?
C'est simple à comprendre, d'autant plus que nous sommes dans un processus de pacification de la République. Et bien évidemment, nous sommes dans un monde qui est devenu un village. Nous devons nous entraider entre nous. Et c'est ce qui est en train d'être fait par le président de la République qui a tendu la main aux Américains et qui ont accepté de nous accompagner pour pacifier en fait la République. Mais en même temps, on se retrouve en face des gens qui ont quitté le pouvoir et qui tiennent à tout prix à revenir au pouvoir, quels que soient les prix. Et au niveau du Sénat, on avait pratiquement une vision, une longueur d'avance. Nous avions autorisé la justice à faire son travail et la justice a bien fait son travail. Parce qu'à son temps, on avait condamné la justice d'être manipulée, mais parce que, partant des principes de l'universalisation, en fait, de poursuite ou de condamnation des actes qui sont, en fait, de nature à troubler l'ordre sur le plan international, les Américains ont repris également sur le plan administratif des enquêtes qui ont abouti, effectivement, à déceler que ce que nous disions à son temps, ici, et ce que la justice avait fait comme travail en condamnant M. Joseph Kabila, la justice n'avait pas tort. Et qu'actuellement, il y avait des éléments entre les mains des Américains qui sont d'ailleurs bien informés que nous et qui l'ont pratiquement poussé en fait à pouvoir décourager cet acte-là en prenant cette sanction qui dirait être justifiée pour l'intérêt de la paix et de la stabilisation de la région des Grands Lacs.
Merci Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. C'est quoi votre lecture par rapport aux sanctions américaines infligées à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila?
Personnellement, je pense que l'interprétation de la démarche en soi est en quelque sorte biaisée de part et d'autre. L'Office américain du Trésor, qui vient d'imposer des sanctions sur l'ancien président Joseph Kabila, venait déjà, en début du mois passé, d'en imposer sur l'armée rwandaise. Et je pense que nous avons encore tenu une émission durant laquelle je vous ai dit que mon interprétation, ma compréhension à moi, c'est que ces outils diplomatiques ne devraient pas constituer une finalité en soi.
Mais est-ce que vous comprenez l'opportunité de ces sanctions?
Je comprends l'opportunité, mais je trouve que la façon et l'interprétation ou l'importance que l'on accorde à ces sanctions, surtout du côté gouvernemental, n'avons pas la peine. En rester au niveau des sanctions, rester peu au regard de tout ce que peuvent faire les Américains s'il faut vraiment directement intervenir pour cesser et arrêter cette rébellion.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Lievin Mbouinga-Vobo et mis en onde par André Mongo. Merci et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.